pas. Ah, 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 ah. Heureusement qu'en France, on ne se drogue pas.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. Vous êtes sur Radio Campus 106.6 FM et DAB+. Aujourd'hui, pour animer cette émission hebdomadaire d'actualité ludique, nous sommes trois. Il y a moi-même François, je suis accompagné de Reynald.
Bonsoir à tous.
Et de Dominique.
Salut à tout le monde.
Alors, un sommaire qui va être notamment initié par le jeu vidéo et notamment, alors... On va parler ici d'un jeu, hein, on va rentrer directement dans le sujet, un jeu grand public et qui malheureusement fonctionne encore beaucoup. Et vous le savez peut-être, puisque vous avez peut-être acheté pour vos enfants des figurines, des jouets, des t-shirts à l'effigie de Fortnite. Alors, c'est assez surprenant, mais Fortnite peut éventuellement apprendre des choses à votre enfant. Est-ce qu'on peut appeler ça une extension, une nouvelle map ? Peut-être
oui, ils ont créé une nouvelle map pour l'événement, effectivement, puisqu'il s'agissait de faire visiter à travers Fortnite, il s'agit de faire visiter à travers Fortnite des lieux célèbres, des lieux historiques, et par exemple le château de Chambord, dans le centre Val-de-Loire, et bien sûr son partenariat avec l'office de tourisme local, j'imagine, local, la région et compagnie, pour faire découvrir des lieux, les beaux lieux de France, les lieux célèbres, les lieux historiques. Et ils ont fait partenariat avec Fortnite pour que des gens créent des maps et que les joueurs visitent, enfin les joueurs eux-mêmes visitent, mais surtout ce qui est intéressant, c'est de faire visiter ça par des célébrités, on va dire des youtubeurs, des streamers célèbres qui font partager leur communauté, le lieu, mais aussi l'histoire, les spectateurs, j'ai envie de dire les joueurs, mais c'est presque des spectateurs qui visitent. Comme tu pourrais faire une vraie visite dans un musée avec un guide, et ben là tu visites et tu peux poser des questions, t'as des informations historiques et en plus tu te balades dans un lieu qui est sympa. Donc je sais pas quels seront les prochains. Il y a cinq. Le premier c'est Chambord, mais il y a cinq châteaux de la Loire qui ont été reproduits pour l'instant au sein de Fortnite. Je sais pas s'il y a d'autres monuments plus tard qui seront dédiés, qui seront visitables.
Ça va être marrant puisque vos enfants bizarrement risquent d'être très intéressés lorsque vous allez visiter les différents châteaux de la Loire.
Quand tu vas les visiter en vrai, ils vont repérer les lieux. Eh oui, je connais ce coin-là, etc.
C'est là où j'ai fait mon premier kill et c'est là que j'ai fait top 1. C'est exactement à tel endroit-là. Les parents ne vont rien comprendre, mais ça serait marrant.
En partenariat avec Solaris. Solaris, c'est un, on va dire, c'est pas un studio, c'est une équipe de jeux virtuels. C'est aussi qui ont une équipe des joueurs sur qui font de l'animation sur Fortnite, sur YouTube. Enfin, pas que Fortnite, sur beaucoup de jeux. Et comme ils sont de la région, de Tours, c'est normal que ce soit adressé à eux. Et donc il y a des tournois, il y a des compétitions, tu peux leur faire le tour du château le plus vite possible ou parcourir tous les escaliers du château le plus vite possible, etc. avec des gains à la clé et même un PC complet à gagner. La grande finale aura lieu, donc ça a commencé le 4 décembre et il y aura des sélections et jusqu'au 15 janvier 2021 où il y aura la finale.
Le tourisme va, je pense, s'améliorer.
On peut visiter qu'en ligne. C'est une idée sympa, effectivement. Au début, je me moquais un peu, mais effectivement, ça peut, puisque c'est un public assez jeune, Fortnite, donc pourquoi pas les pousser un jour, hein. Peut-être même demander à leurs parents pour aller visiter les châteaux en vrai.
En plus, Fortnite étant un jeu gratuit à la base, tu as énormément de joueurs dessus, donc autant, comme on dit, si c'est pas les gens qui vont à la culture, autant amener la culture aux gens, donc si tu peux leur amener un petit savoir, c'est toujours ça de prix, surtout pour les jeunes qui décrochent pas de leur écran.
Et on peut retrouver des présentations en vidéo, en allant sur YouTube, Twitch, sur la chaîne de Solaris. Donc Solaris, ça s'écrit S-O-L-A-R-Y. Ils ont plein de vidéos de jeux vidéo, et notamment ces visites de châteaux.
En plus de Solaris, t'as le YouTuber connu maintenant pour tout ce qui est fait historique, plus ou moins rigolo et plus ou moins sérieux, qui s'appelle Nota Bene. Stephen Bern, c'est que le côté rigolo et m'as-tu vu, mais le côté principauté, on va dire. Alors que là, le youtubeur Nota Bene, qui lui est très bien connu et très bien dans le milieu historique des youtubeurs, qui peuvent aussi faire des visites virtuelles des châteaux.
C'est amusant, j'ai regardé quelques vidéos et en fait lui il est en t-shirt, etc., tranquille, en train de boire. Et ça fait pas le guide habituel qu'on pourrait voir dans les châteaux.
En plus, en ayant regardé quelques-unes de ses vidéos YouTube, il claque de temps en temps dans des sujets très sérieux, des petites piques en disant Ouais, enfin bon, là on savait qu'ils nous la mettaient profonde, mais on y a été quand même. Enfin, c'est vraiment pas le côté très scolaire, c'est vraiment le côté où tu te marres bien et t'apprends quand même pas mal de choses.
C'est ça, c'est ça.
Voilà. Ouais, ouais.
Alors, avant de continuer ce sujet vidéo, puisque on a oublié de commencer par une des informations les plus importantes de ce mois-ci, c'est bien sûr, et ça risque d'être une mauvaise nouvelle pour nous tous, c'est le Wamageddon. Alors, on n'en a pas parlé la semaine dernière parce que je venais de perdre, hein, au moment, quelques minutes avant l'émission, le
Wamageddon. Je venais de perdre au Mariageddon. J'avais droit à la chanson de Maria Carré.
Alors, moi, le Mariageddon, j'ai l'impression de l'entendre tous les jours. J'ai tous les jours l'impression d'entendre All I Want for Christmas is You.
Ça va être de pire en pire jusqu'à Noël, quoi. C'est ça le problème. Au début du mois, ça va, les chansons de Noël, t'as le temps. Mais là, ça va être de pire en pire. J'ai même pas encore entendu Petit Papa Noël partir aussi, mais à l'approche du 23-24, ça va être l'explosion.
Et pour l'instant, moi, j'ai pris plusieurs fois le métro aujourd'hui et je suis safe. Wamageddon et Tinogeddon, je suis dedans encore. Il n'y a pas de souci.
Alors, pour nos habitués, hein, plus besoin de rappeler ce qu'est le Wamageddon. Si vous nous rejoignez aujourd'hui sur Radio Campus, sachez que le Wamageddon, c'est tout simplement si vous reconnaissez la chanson de Wham, Last Christmas, à la radio, et ben vous avez perdu. Voilà, les règles.
Ça, le
simple.
But, c'est de tenir le plus longtemps possible, au moins jusqu'au 24 à minuit, sans entendre cette chanson, que ce soit à la radio, dans la rue, et que ça, que la version originale. Hein, mais c'est dur. Moi, je suis tombé. Voilà, par... J'écoute la radio toute la journée. C'est un miracle que j'ai réussi à tenir presque 15 jours.
Alors,
le pire, c'est que j'ai eu droit aux deux. J'ai eu droit à Wham et à Maria Carré, coup sûr.
À savoir qu'il y a une map pour tous les participants. On a quand même déjà pas mal de personnes qui nous ont quittés. En Europe, on a commencé à 5600 joueurs. Il y en a déjà 1000 qui se sont écroulés par terre en écoutant la musique de Last Christmas. Ça fait assez mal, mais il y a encore ce que l'on appelle les Warriors qui sont en cours de challenge. Et le challenge se termine le 24. Donc il vous reste un peu moins de 10 jours pour pouvoir être dans le top des Wamageddon. Et nous, on vous avait proposé un challenge également avec Tinogeddon, avec Petit Papa Noël. Et je pense que pour l'instant, on est tous dans le concours. Je vous propose maintenant d'enchaîner avec un jeu vidéo qui était extrêmement attendu cette année. Alors, même pas cette année, hein, puisque la première annonce officielle du lancement de Cyberpunk 2077, vous en avez sûrement entendu parler si vous êtes un peu geek sur les bords.
Même si t'es pas geek, tu en entends parler partout, même sur les radios et les télé généralistes.
Ou si tu es fan de Kenny Reeves. Hein, peut-être que tu as vu sa tête modélisée en 3D, qui est assez bien réalisée, hein, d'ailleurs, hein, faut le noter, même si la chevelure, son expression capillaire est assez... voilà, c'est pas forcément la meilleure. Ce jeu a quand même été annoncé officiellement en 2012.
Donc, parce que hein, ça fait 8 ans, enfin, ça fait peut-être même plus de 8 ans qu'il est en développement. Chez CD Projekt Red, l'éditeur, j'allais dire russe, polonais.
Alors tout est basé d'un jeu de rôle, assez bizarrement, qui s'appelle Cyberpunk. Ici, on parle de l'édition de 2020, puisque Cyberpunk a eu plusieurs éditions. Hein, ça date de 1988.
La première édition, c'est 1988, c'est ça. Et la deuxième édition est sortie 2 ans plus tard, c'est Cyberpunk 2020, donc en 1990, c'était la suite d'une version un petit peu améliorée. Je sais plus, moi j'y ai joué, mais je sais plus laquelle des deux exactement. Il y a une troisième édition en 2005, mais elle est oubliable, en fait, voilà, elle a pas eu beaucoup de succès, elle était un peu reniée par les joueurs.
Alors, je pense qu'il a vu qu'en mettant, en 1988, en mettant 2013, et ensuite en 90, en mettant 2020, il pensait prendre assez d'avance, et en 2005, il s'est dit « je vais pas prendre de risque, je vais l'appeler Cyberpunk version 3 », histoire de ne plus être dépassé par les événements.
Et il y a une... c'est même pas une quatrième, c'est une édition rouge, enfin c'est Cyberpunk Red, qui est sorti en 2020, dont l'aventure s'est située en 2045, et c'est lié au jeu vidéo, et c'est un petit peu une espèce qu'on appelle un prequel maintenant au jeu vidéo Cyberpunk 2077.
Alors comment s'est passé un peu ce développement de Cyberpunk 2077 ? À la base, c'est un studio qui est assez réputé pour avoir fait Witcher 1 et Witcher 2, donc il s'appelle CD Projekt. Une fois qu'ils ont terminé la deuxième édition de The Witcher, qui a plus ou moins bien fonctionné, ils ont décidé d'entamer la production de Witcher 3. Et en parallèle, ils ont un peu divisé leurs équipes pour qu'une équipe se lance également sur la production de Cyberpunk 2077.
Ils ont pu engager du monde avec l'argent qui est rentré avec les deux premiers avec The Witcher, pardon.
À noter que The Witcher 3 reste à l'heure actuelle, alors même si je n'y ai pas joué, mais vous pouvez en parler à tous les fans de RPG, reste un des meilleurs RPG. On est ici sur une qualité de jeu de rôle d'Elder Scrolls, par exemple. Alors, je parle quand il était encore en mode solo, hein, parce que peut-être que la dernière version peut porter à polémique, mais c'est vrai que The Witcher 3 est extrêmement réputé, notamment par son système de quête et surtout par ses décisions que vous faites en jeu qui vont affecter votre gameplay par la suite. Et ça, c'est assez puissant. Du coup, une fois que Witcher 3 a été terminé, est sorti, a fait un succès au fur et à mesure des années, puisqu'avec le bouche à oreille, ça a extrêmement bien fonctionné, il y a eu une attente plus qu'énorme sur le jeu Cyberpunk 2077. Il y a eu un peu des informations au goutte à goutte, hein, des quelques petites vidéos d'annonces au début en disant « voilà, on se prépare à un développement assez long ». Et c'est l'année dernière, à l'E3, qu'on a vu les premières vidéos de gameplay assez poussées.
Des gros teasers, oui, en plus. C'était plus de la petite vidéo, oui.
Des gros teasers portés par l'acteur Keanu Reeves. Alors, Keanu Reeves, hein, ici on parle de Matrix. Hein,
John Wick, etc.
Effectivement. Et un peu comme le jeu qui avait pris Norman Reedus, qui était modélisé. Ici, on partait un peu sur la même chose, hein, prendre un acteur. En plus, cet acteur, alors pour ne pas trop spoiler dans le jeu, va vous accompagner tout au long du jeu. Le jeu Cyberpunk reste une grosse réalisation dans le sens où ils ont modélisé ici une ville futuriste.
Ça te fait penser à Blade Runner, non?
C'est ça.
Non, c'est ce que j'allais dire. Ouais.
C'est la référence que tout le monde a, effectivement.
J'allais dire cinquième élément, mais c'est pas grave.
Si, mais c'est encore plus loin dans le futur, je pense.
Je vulgarise encore un peu plus. Mais voilà, avec des villes qui s'étalent au niveau vertical, avec des personnes. Et là, ici, on rentre dans l'univers cyberpunk. Hein. Si vous êtes un peu fan de steampunk ou de cyberpunk, vous avez des personnes qui sont à moitié humaines, à moitié robots, et qu'ils ont vraiment des personnalités, des designs complètement hors du commun. Et ça, c'est vraiment un gros challenge. Et c'est pour ça que, sur ces 8 ans de développement, les gens s'attendaient à une merveille.
Je viens de vérifier, le Blade Runner, le premier film, l'action du film se passe en 2019. Donc, on est déjà passé. Ah. En sachant qu'il y a eu une suite qui s'appelle le Blade Runner 2049. Je dis pas en quelle année ça se passe, mais bon, là. Mais c'est effectivement, il y a forcément des références dans ce jeu, quoi.
Donc, on a des personnes qui, pendant 3 ans, ont précommandé le jeu. Donc, l'attendaient sur le pied ferme. Et ça y est, il est sorti. On peut dire qu'il y a quand même.
Pas tous y jouer, mais bon.
Il y en a
qui ont essayé, ils ont eu des problèmes.
La première chose, c'est qu'il sort effectivement sur des consoles. Alors maintenant qu'on va appeler d'anciennes générations, puisqu'on a la nouvelle Xbox et la nouvelle PlayStation qui sont sorties. Alors sur ces dernières consoles de dernière génération, effectivement, le jeu s'en sort plutôt bien, sachant que Cyberpunk vous propose une expérience en 4K.
Alors attention, il n'a pas été développé pour la PS5 et la Xbox, Xbox Series X, un truc comme ça, ou Series S. Il n'a pas été développé. Ouais. C'est-à-dire que le jeu tourne sur ces consoles, mais en mode rétrocompatibilité. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Donc c'est un jeu PS4 qui tourne sur PS5 en utilisant la puissance, mais pas toute la puissance de la console. Il y a des versions qui vont sortir plus tard pour PS5 et Xbox Series S, qui sont toujours en cours de développement, on va dire en cours d'élaboration. Parce que c'est pareil, comme ces consoles viennent de sortir, les studios de développement, ça fait quelques mois peut-être qu'ils ont les kits de développement ou les pré-versions des consoles pour pouvoir travailler et ajuster leur jeu dessus. Donc sur ces consoles-là, ça tourne bien, enfin ça tourne, mais c'est des versions rétro-compatibles du jeu. Alors tandis que les anciennes consoles, que ce soit la PS4 ou la Xbox One, ces consoles-là datent de 2013-2014, donc elles sont presque plus vieilles que le... Elles ont le même âge que le développement du jeu, pratiquement. Elles sont sorties au moment où le jeu commençait à être développé. Les seules consoles, par exemple pour la PS4, il existe une version Pro, donc la PS4 Pro qui est plus puissante, etc. Sur ces consoles-là, la PS4 Pro, par exemple, le jeu tourne, il est jouable. Tandis que les versions qui tournent sur PS4 et Xbox, ce sont des versions, on va dire, light, pour être poli.
Voilà, bon, alors de dire qu'il est parfaitement jouable sur console, on en est très loin à l'heure actuelle. La meilleure expérience que vous allez pouvoir avoir, si vous voulez vraiment vous immerger dans le jeu, ça restera une expérience sur PC. Bien sûr, avec un matériel qui va en conséquence, hein, puisqu'ici...
Oui, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un PC super récent, tout neuf, brillant, quoi, mais par contre, il faut mettre vos pilotes à jour. Parce qu'il y a des pilotes spéciaux qui ont été développés pour les dernières cartes graphiques adaptées au jeu. Donc, et il y a des ça va, même sur des PC qui ont 2-3 ans, voire un peu plus, ça, le jeu tourne. Tu vas peut-être pas tout mettre au maximum, mais bon, c'est normal. Bah,
si on a la possibilité d'avoir un jeu comme ça qui, graphiquement, et surtout lorsqu'on s'immerge dans cette ville, qui est complètement hallucinante, l'expérience qu'on veut avoir, c'est éventuellement en 4K. Sauf que les cartes graphiques, à l'heure actuelle... Voilà, il faut vraiment avoir le matériel de dernière génération.
Je pense que le plus, enfin, d'un point de vue, si on peut donner un conseil, c'est plus qu'une carte, enfin, si t'as une carte graphique de dernière génération, mais c'est plus c'est au niveau de la mémoire et du disque dur. Avoir un disque dur rapide, donc un SSD, et la mémoire, 8 gigas, c'est peut-être pas, au moins 16 gigas, je dirais. Et là, tu vas réussir.
Voilà. On est sur du 32 maintenant.
Pour avoir un jeu, même si tu baisses un peu les graphismes, au moins ton jeu va être un peu fluide, quoi. C'est le principal.
T'as le système, justement, de jeu fluide, justement, tu me fais penser. C'est comme c'est un jeu qui se passe dans le futur et les villes futuristes, un peu comme la Blade Runner et compagnie, tu as énormément de lumière ou de luminosité, de néon. Au centimètre carré, tu as au moins 15 000 enseignes lumineuses. Donc ton PC est à terre parce qu'il doit gérer les lumières, les ombres, les mouvements de foule parce que c'est une ville qui vit. Là, c'est des projets que tu as rempli la ville de PNJ. Tu as une trentaine de personnes qui se baladent autour de toi constamment quand tu te balades dans la ville. Ton PC souffre si tu mets ne serait-ce que les standards en qualité graphique. En plus, le Cyberpunk gère aussi le RTX et tu mets le RTX, tu as le choix de le mettre en normal, en très bonne qualité et ce qu'ils appellent le psycho, c'est limite comme si tu étais dehors en train de regarder.
Voilà. C'est pas encore ça, ouais.
Et ils ont même fait une option graphique pour dire que le jeu t'aide à gérer les graphismes, pour te dire qu'il consomme énormément au niveau de ton PC.
Et il y a même des personnes qui disent que pour le mettre à fond, on n'a pas encore les composants nécessaires pour aller jusque-là. Donc voilà, il faut vraiment, si vous voulez le pousser au maximum, être prêt derrière, avoir les meilleurs équipements possibles, sachant que même si vous avez par exemple des processeurs AMD, il y a certains bugs qui font que l'utilisation de votre processeur ne sera pas faite au maximum.
Ouais, il est pas optimisé sur AMD pour l'instant. Non. Bon, c'est un jeu qui va être patché.
Il n'est pas optimisé sur certaines secteurs aussi.
C'est un jeu qui est en développement depuis 8 ans, mais bon.
Ouais. Parce qu'il y a des moments où tu vas arriver dans une section de la ville où tu vas voir ton processeur qui va partir à 100% d'utilisation, tu ne sais pas pourquoi, alors que tout le reste de la ville est très fluide, parce que cette zone a peut-être été bâclée lors de la production du jeu, n'a pas été assez optimisée, ou pour X raisons, tu dois baisser tel ou tel graphique, mais tu ne sais pas pourquoi. Peut-être que ce sera réglé avec un patch futur ou pas, mais tu sens qu'il y a des différences de process dans la ville, ou des fois même en dehors de la ville.
Alors, et pour combler un peu ça, Cyberpunk agit un peu comme les autres jeux vidéo, et on peut comparer ça par exemple à une vidéo YouTube lorsque vous avez un mauvais débit. Et bien justement, la qualité va être baissée pour qu'elle puisse s'adapter et que vous ayez plus ou moins une lecture fluide de votre contenu. Et Cyberpunk va faire la même chose. Donc s'il voit que votre pros, votre carte graphique commence un peu à avoir du mal, il va baisser un peu la qualité des textures. Sauf que lorsque vous jouez sur console ou sur des PC d'ancienne génération, vous allez des fois vous retrouver avec des personnages qui bougent devant vous avec une qualité digne de la PS1.
De la Wii, même pas la Wii ou la Wii.
Et là, on rentre un peu dans la partie bug, puisque les gens considèrent ça comme des bugs, puisque tous les personnages, du coup, vont être limités à cette texture. C'est tout simplement affreux. Vu qu'on parle de bug, on sent que le jeu était sorti parce que ça faisait déjà un petit moment.
Je l'ai sorti parce que c'est Noël et que les grosses consoles sont là, donc c'est Noël. Et c'était un des arguments, c'était un des arguments de vendre des nouvelles consoles. Que Cyberpunk allait, c'était le premier gros jeu qui était prévu, enfin même pas prévu pour ça. Alors que la version qui vient de sortir n'est même pas la version prévue pour ces consoles-là. Enfin, c'est d'un point de vue marketing, c'est balèze.
Et c'est des projets. Witcher 3 date quand même de plusieurs années, donc ils n'ont plus de rentrée d'argent. Faut payer des développeurs pendant 8 ans et toujours pas voir. Même s'il y a eu des précommandes, hein. Mais là, on sent que tout a été misé là-dessus, donc le jeu, c'est extrêmement bien vendu.
Ils n'ont pas d'autres projets, enfin, voilà, peut-être des projets. J'imagine qu'ils ont d'autres projets de jeux, mais c'est vrai que pour l'instant, ils ont pas d'autres entrées, quoi.
Donc là, dans les bugs, on peut voir des personnages qui rentrent dans les placards, qui passent à travers les tables, des voitures qui sortent de nulle part.
Toi. Ouais, c'est ça.
Des piétons qui marchent en l'air. Voilà. On a quand même plusieurs bugs. Alors, ce ne sont pas des bugs qui vont bloquer complètement vos missions.
Ça va pas faire crasher le jeu ou foutre ta sauvegarde en l'air, ce qui est un petit peu gênant.
C'est ça. Là, c'est plus limite, ça va te faire passer un bon moment à rigoler devant les bugs un peu tirés par les cheveux. Quoi.
On n'est pas la même chose que ce qui se passe sur les consoles d'anciennes, enfin la PS4 et Xbox One, où là c'est complètement injouable et il y a des gens qui ont demandé des remboursements. Hein. Ça, c'est allé jusque là.
Eh oui, ça rappelle un certain jeu de Blizzard, hein, cette magnifique refonte de Warcraft 3 où les personnes ont demandé massivement des remboursements. Alors là, je pense qu'il y en a eu un peu moins, mais CD Projekt a quand même promis de faire des remboursements et surtout de développer un patch très prochainement pour corriger les bugs les plus répertoriés.
Ça ne suffira pas, ces machines ne sont vraiment pas assez puissantes pour fournir une expérience de jeu sympa. Mais de toute façon, remboursement, oui et non, parce que en fait, pour se faire rembourser, il fallait appeler de la hotline de ces projets, et comme par hasard, la hotline était trop occupée, donc il fallait être prêt à rester 1 ou 2 heures au téléphone à attendre, c'est avec la musique d'attente, pour enfin avoir quelqu'un et dire et plaider ta cause, parce que c'est même pas obligé qu'ils remboursent, plaider ta cause pour dire que ton jeu est injouable et que c'est pas du tout ce que t'attendais, et éventuellement ils te remboursaient à ce moment-là.
Il y a d'autres personnes qui l'ont acheté sur PlayStation, donc ils ont contacté Sony et ils ont eu un grand non, 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 on va pas vous rembourser, même si c'est des projets que l'a annoncé. Sony refuse tout remboursement du jeu. Et vu le prix, tant mieux. Hein.
Ouais, y a des rumeurs de plaintes, comme quoi Sony porterait peut-être plainte contre CD Projekt parce que le produit n'est pas là, alors que c'est un des arguments de vente de leur console. Mais bon.
Ils ont créé une adresse email qui s'appelle helpmerefund@cdprojektred.com. Voilà, jusqu'au 21 décembre prochain, vous avez la possibilité de demander un remboursement, bien sûr en promettant de désinstaller votre jeu et de ne pas installer une version hackée. Puisque la version hackée, c'est également un sujet qu'on peut traiter dès maintenant. Alors, est-ce qu'on ne ferait pas une petite pause musicale avant de parler de hack ? On adore parler de hack dans l'émission d'ailleurs. Alors, nous avons pour habitude maintenant, en cette période de confinement où nous sommes à la maison, de préparer un petit challenge back-to-back pour écouter de la musique. Et aujourd'hui, comme Noël approche assez rapidement, on vous propose de très bonnes idées d'albums à mettre sous le sapin. Alors attention, il y avait bien sûr une petite note d'ironie dans ce message. Alors,
tu peux le laisser sous le sapin, voire le jeter avec le sapin. Dans un sac à sapin, hein. Toujours jeter votre sapin dans un sac à sapin avec le CD de Noël.
Alors, qui veut se lancer dans cette aventure ? Bon, écoutez, vu que je commence assez rarement, je vais me lancer. Alors ici, on parle bien sûr d'albums qui sont sortis en 2020. Attention, hein, c'est la condition notée sur le papier. On n'a pas pu faire beaucoup d'albums découverts, malheureusement, cette année. Et il y en a un qu'on a reçu au porte du studio de Radio Campus et qu'on n'a malheureusement pas pu écouter. Ceci dit, j'ai récupéré en click and collect ce magnifique CD d'un groupe qui, on pensait qu'il ne faisait plus rien depuis plusieurs années, c'est Green Day, qui nous a fait un nouvel album en 2020.
C'est la joie, là, ça se voit. Hein.
Je sais même pas quoi dire, en fait. C'est ça le problème.
Cachez votre joie. J'ai choisi une chanson qui s'appelle « Meet Me on the Roof » de Green Day. Voilà, c'était Green Day avec Father of All Motherfuckers. Voilà, je pense qu'il s'adresse aux personnes qui ont sûrement acheté cet album. Et bizarrement, contrairement à d'autres groupes qui font toujours la même soupe, ici on sent que Green Day a changé son influence et malheureusement a fait un peu une sorte d'Arctic Monkeys, un style qui ne leur ressemble pas. Et j'aurais peut-être préféré qu'il reste dans les roots de Green Day. Mais bon, écoutez. Alors, si cet album est sur votre sapin, comme disait Dominique, vous n'hésitez pas à le mettre dans le sac à sapin également.
Avec, voilà. le clip vidéo, ils ont même recruté un des gosses de Stranger Things pour jouer dedans. Déjà, ça pour moi, ça tue le truc.
Alors, vous pouvez récupérer le CD et l'accrocher à un arbre, puisque ça peut effrayer les oiseaux, notamment si vous avez un cerisier ou autre. Ça peut être assez pratique pour pas que vos cerises soient mangées. Donc merci Green Day de nous proposer comme ça une solution pour préserver nos cerises. On enchaîne, on parlait tout à l'heure de Cyberpunk 2077 et effectivement sur ces gros jeux on s'attend à ce que les hackers essayent de le hacker. Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quand même des sociétés qui arrivent à préserver leurs jeux du hack. Et il y a des jeux qui s'en sortent assez pas mal, puisque Red Dead Redemption a retenu par exemple 2 ans avant de subir le hackage. Ici, Cyberpunk, lors de sa sortie, se tanner un peu devant les hackers en disant bah alors qu'est-ce que vous faites.
Non, c'est un des sites les plus connus, on va pas donner le nom hein, bien sûr, un des sites les plus connus où on peut trouver les jeux récents ou d'anciens jeux en mode craqué, en mode gratuit on va dire, et les administrateurs de ce site, c'est un site russe bien sûr, ont mis, on sent la guerre entre les Russes et les Polonais, ont mis une photo sur leur site où ils montraient un message de la part de CD Projekt qui disait « Bah alors, vous n'avez pas craqué notre jeu, qu'est-ce que ça veut dire, vous perdez du temps là ?» Et savoir que quelques heures plus tard, effectivement, sur le même site, tu pouvais télécharger le jeu Cyberpunk en mode craqué. Et même alors, avec les derniers patchs, c'est ça qui est le comble.
Alors, on mettra bien sûr tous les liens hein, sur nos forums d'Heureusement en France, c'est ça, je fais un peu de pub, hein, même si elle est mensongère. Ouais. Alors, dans ces personnes qui ont acheté Cyberpunk 2077, il y a des stars. Et ici, on va parler d'un membre qui nous a bien occupé dans cette période de 2020. Alors, on est peut-être déjà dans la rétrospective qu'on fera assez prochainement. C'est Elon Musk qui a tweeté. Alors, c'est vrai qu'Elon Musk se retient un peu de tweeter puisque ça perturbe généralement la bourse. On lui a demandé de se calmer un peu.
Voilà, c'était déjà fait, puisqu'avec tous les critiques qu'il y avait sur le jeu 2077, leur cours de bourse a chuté.
C'est ça, et lorsqu'ils ont annoncé les remboursements de jeu, ils ont chuté de 15%, ce qui est assez incroyable. Donc voilà, se précipiter à Noël, ça leur a peut-être fait très mal. Alors je vais vous citer son message qui est assez fort en café. J'ai pris une semaine de vacances pour jouer à ce jeu et j'ai vite réalisé qu'il ne s'agit pas du jeu auquel j'ai pensé chaque jour durant ces 8 dernières années. J'ai dû pleurer pour pouvoir dormir, incapable de fonctionner, et j'ai fini par pleurer à chaque fois que je pense au jeu. Et je ne veux même pas toucher à ma PS4, c'était censé être le futur du gaming et maintenant je ne sais même plus vers quoi je devrais me tourner.
C'est l'intelligence artificielle qui a écrit le message, c'est ça?
Peut-être. Donc voilà, même si Elon Musk s'y met à critiquer un jeu vidéo, pour vous dire à quel point Cyberpunk...
Il était jaloux parce qu'on n'a pas parlé de lui pendant une semaine. C'est vrai que depuis une semaine, 15 jours, on parle que de Cyberpunk 2077.
Ah bon, en même temps, je pense qu'il devrait se taire vu qu'il n'a pas eu sa navette qui a explosé à son retour il y a quoi, il y a une semaine ou deux.
Non, il y a un booster qui a perdu une patte lors de l'atterrissage et qui était un peu penché.
Et qui a fait boum et puis qui a eu une belle explosion. Ouais. Et c'est bizarre, là, il n'y a pas eu de tweet disant tout d'un coup j'ai bronzé sans écran total et bon, on va dire qu'il fait parler de lui dès qu'il peut. Quoi.
Non, mais je pense que ce booster dont je parlais, qui était censé envoyer les prochaines équipes et notamment Thomas Pesquet, vu l'atterrissage qui était un peu bancal, est-ce qu'ils vont utiliser la même fusée? C'est une grande question. Un petit dernier point sur Cyberpunk 2077. Ici, on va parler un peu de Google avec leur offre qui s'appelle Arcadia.
Yeah. Parce qu'effectivement, donc 2077, pour jouer aux jeux vidéo, là, comme là, par exemple Cyberpunk 2077, on peut jouer sur PC, qui pour l'instant est la meilleure expérience, aussi sur console, mais aussi sur, sur Stadia, c'est-à-dire sur les, comment on appelle, les plateformes de jeux en ligne, sur les plateformes virtuelles, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir une machine, un PC forcément super récent. Si tu bénéficies de l'offre Stadia, mais il y a aussi Amazon qui propose ce genre de jeux dématérialisés, je ne sais plus comment on appelle ça. Là, en l'occurrence, Google a fait une grosse pub pour justement la sortie de 2077, ils ont même fait une offre spéciale. Quand tu achetais le jeu en version Stadia, ils t'offraient le pack Stadia première édition, c'est-à-dire en gros la manette officielle et un Chromecast pour pouvoir jouer sur ta télé géante par exemple. Et c'est le meilleur, enfin t'es sûr quand tu joues sur une plateforme comme ça d'avoir la meilleure expérience de jeu, quels que soient les jeux, parce que comme ce sont les serveurs de Google derrière qui calculent tous les graphismes, tu peux même pas, enfin tu réfléchis pas, tu mets tout à fond, enfin c'est à fond par défaut, sans parler du fait que les jeux sont patchés, t'as rien à installer chez toi, t'as rien à télécharger. Il faut avoir au minimum la fibre quand même pour retrouver l'image. En fait, tu joues, chez toi t'as la manette, ça transmet tes commandes à Google, Google calcule les images et te les renvoie sur ta télé. Donc t'as même pas besoin d'avoir une machine chez toi, quoi, pratiquement.
Je pense qu'on est sur le futur du gaming ici, à condition, comme tu l'as dit, d'avoir une très bonne connexion Internet. Il faut vraiment avoir la fibre qui est bien poussée. Hein. Il faut vraiment pas que le mec est mal raccordé au bout de votre rue.
En gros, le flux d'image que tu reçois est assez énorme. Mais encore, pour un jeu comme ça, qui est un jeu solo, hein, on rappelle, 2077 pour l'instant, parce qu'il y a peut-être qu'il y a des modes plus tard, je sais pas, tu joues tout seul. Donc, à la limite, c'est moins grave si t'as un peu de lag, si t'as un peu de ralentissement, quoi. Mais c'est un peu plus gênant dans un jeu compétitif, par exemple, où tu dois, un jeu de foot ou un jeu de sport, n'importe quoi, même un jeu de shoot, où tu joues contre d'autres joueurs et t'as un petit décalage par rapport à eux, ça peut te faire perdre une partie. Là, c'est pas gênant sur ce genre de jeu.
Mais imaginons, on peut pousser ça plus loin. Du coup, tu pourrais éventuellement jouer en local avec d'autres gens. Si tous les gens sont sur la même plateforme, dans ce cas-là, le débit entre eux serait exceptionnel, puisqu'ils seraient quasiment tous sur la même machine, mais avec une diffusion en ligne. Ouais. Personnellement, moi, je ne suis pas fan du Shadowplay. Si j'étais un joueur de console, au lieu d'acheter la dernière PS5, et si j'avais une bonne connexion Internet, peut-être que je me lancerais là-dedans.
Ou même un joueur PC, hein. Bah, si t'as pas un PC, si t'as pas envie d'investir dans un gros PC maintenant, ou parce que t'as pas les moyens ou t'as pas envie, parce que t'en as pas besoin forcément tous les jours, tu peux simplement avoir effectivement sur ton ordinateur et jouer dans ton navigateur à un jeu comme Cyberpunk 2077 à travers ta connexion internet. Ça te coûte moins cher et en plus t'as la meilleure qualité de jeu au niveau graphisme. Les patchs sont faits automatiquement, etc. Quoi.
Et rien ne t'empêche de prendre ta manette et d'aller jouer chez quelqu'un d'autre. Hein. Mais quand tu vas visiter Mémé, tu peux prendre ta manette et se brancher sur sa box et c'est parti, quoi.
On déconseille de jouer sur une connexion partagée sur téléphone parce que ton forfait va partir très très vite.
Voilà, rien qu'au lancement du jeu, c'est. T'as déjà l'alerte des 2 gigas de données.
Tu joues 2-3 heures, ton forfait de 50 gigas est peut-être passé dedans, quoi.
Donc voilà, cette offre écrasante de Google a malheureusement pris fin. Apparemment, trop de personnes commandaient le jeu. Oh, c'est bizarre tout ça. Est-ce que ça vous a tenté, ce Cyberpunk 2077?
Moi, j'en ai entendu parler.
Avant et après.
Alors, quand j'en ai entendu parler, peut-être pas il y a 8 ans, mais quand j'ai revu les premières informations et le fait que j'étais content parce que effectivement, c'est des projets, c'est une bonne boîte et ils ont fait des bons jeux. Donc, c'est une bonne réputation. Cyberpunk, j'avais un a priori favorable parce qu'effectivement, j'avais joué au jeu de rôle papier. Mais maintenant, quand j'ai vu les premières vidéos avant sa sortie et après sa sortie, je suis plus très intéressé parce que on m'avait promis un jeu où tu faisais ce que tu voulais. Le problème, c'est que le début du jeu, même si t'as 3 choix au départ, tu choisis nomade, corpo ou gamin des rues, tu te retrouves très vite à faire l'histoire principale et une espèce de gros tutoriel qui va te prendre une vingtaine d'heures. Et le problème, c'est que cette histoire m'intéresse pas du tout, moi. Mais éventuellement, plus tard sur PC, quand il y aura des mods, comme il y en a toujours sur PC, qui permettront, par exemple, comme sur Skyrim, par exemple, il y a des modes qui permettent de commencer où tu veux. T'es pas obligé de faire le tutoriel, de le refaire à chaque nouveau perso. Tu peux commencer où tu veux, ou dans un endroit différent, avec un perso déjà évolué. Ça m'intéresse déjà plus, quoi, cette partie-là.
Effectivement, les gens disent qu'en 24 heures, en une vingtaine d'heures, 24, tu peux torcher la quête principale. Et surtout, quelque chose qui était présent dans The Witcher 3, qui était quand même le titre phare de CD Projekt, c'est d'avoir des conséquences selon tes actions. Et ce qui est quasiment invisible dans le jeu, et ce qui est extrêmement déçu des joueurs. Et je suis désolé.
Les choix ont des conséquences, mais c'est peut-être pas aussi notable que ça, quoi.
En fait, c'est des choix. Quand tu es en train de jouer dans le cyberpunk, tu as des discussions qui sont colorées en jaune et en bleu. Et on t'explique très vite que les discussions qui sont en jaune vont faire avancer l'histoire, quelle que soit ta quête. Et celle en bleu, c'est juste pour le lore, pour la thématique du jeu, les discussions, le blabla environnant. Par contre, tu as des choses, ils te mettent en avant les choix qui sont grâce à une caractéristique, par exemple la caractéristique du sang-froid, et si tu as par exemple 6 en sang-froid, tu peux dire ça. Et ça te fait avancer dans ta quête d'une certaine façon.
C'est un vrai pur RPG, on est proche d'un jeu drôle sur papier. Mais...
Et si t'es corpo ou nomade, et bah des fois t'auras une ligne où est marqué tu es corpo, donc tu peux dire ça à la place, parce que t'es dans le milieu et tu peux raconter ça.
J'ai un joueur que je connais qui a joué beaucoup, et il a joué 48 heures non-stop pratiquement pour finir la quête principale. Il m'a dit par exemple, si quand tu commences en nomade et tu fais certaines quêtes, tu dois explorer des bâtiments, et bah, comme tu es nomade, tu as des renseignements, tu es débrouillard, donc tu n'as pas besoin de payer pour les renseignements, tu trouves les informations par toi-même. Par contre, si tu commences en corpo, tu veux avoir les mêmes renseignements, tu vas devoir claquer plein d'argent pour arriver aux mêmes choses. Donc il y a des changements à ce niveau-là. Mais ça ne me bluffe pas, quoi, franchement.
Je t'avouerai que de mon côté, moi je suis très RPG, mais le côté médiéval et médiéval fantastique. Donc un cyberpunk, pourquoi pas. Donc j'ai fait énormément de let's play de divers youtubeurs et streamers Twitch. Le côté néon lumineux à droite à gauche, des voitures, etc. Bon, ça me
donne j'aime beaucoup l'ambiance, mais dans le genre, je connais déjà Shadowrun, que je préfère. Comme
ouais, voilà.
Je préfère Shadowrun. Et en jeu vidéo, les adaptations de Shadowrun que j'adore aussi. Et que...
Quitte à faire des jeux où tu as des choix qui vont influencer tes parties un peu plus loin dans le jeu, je préfère encore me remettre à Arcanum ou des conneries comme ça. Quoi.
Oh, arrête, tu parles de choses qui fâchent.
mais sérieusement, c'est des très bons jeux, tu peux refaire en boucle et en boucle de différentes façons, et t'as pas besoin d'avoir une bête de guerre pour faire tourner le jeu.
Et c'est dommage d'avoir modélisé des villes comme ça, fantastiques, d'avoir des personnages tellement uniques dans le jeu.
Je sais pas ce qu'ils ont prévu sur la durée de jeu, combien de fois il y a forcément des jeux.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à refaire une partie et de créer un autre personnage, puisqu'on sait qu'on va plus ou moins suivre cette même
un peu comme linéaire. Dans le même genre, il y a aussi Deus Ex, où tu pouvais faire le jeu complet de façon différente, en mode bourrin total, ou en mode infiltration sans jamais tuer personne, ou en mode hacking, où tu passais ton temps sans jamais tirer une balle ou quoi que ce soit. J'ai refait le jeu Deus Ex plusieurs fois de façon différente, et ça me donne même envie d'y rejouer d'ailleurs. Là, tu vois rien que le fait d'en parler.
Il y a un peu de ça, puisque tu as plusieurs manières d'engager les combats. Oui, sauf que lorsque tu es spécialisé dans un combat, quand tu joues au début et que tu joues à la fin, il n'y a pas vraiment de grosse différence selon ton évolution. Ça va toujours être un peu les mêmes actions. Donc tu ne vas pas innover comme dans certains jeux où tu vas avoir des combos tellement puissants à la fin que tu vas faire des choses complètement folles. Là, ce n'est pas ça. En fait, tu vas juste faire peut-être un peu plus de dégâts, tu vas toucher plus vite. Donc c'est... Bizarrement, il n'y a pas d'innovation dans le gameplay, en tout cas au niveau des combats.
Il y a des innovations, etc., qui sont mises en avant, mais moi, ça m'a pas bluffé, quoi.
Il parlait d'une mise en place d'une intelligence artificielle qui, quel que soit le langage dont tu parlais, que par exemple si tu mettais le jeu en français, en anglais, en chinois, je dis n'importe quoi comme langue, le côté labial faisait qu'il s'adaptait à la prononciation du langage. Oui. Et donc, quel que soit, tu pouvais changer la langue en pleine partie et t'avais l'impression que la personne parlait vraiment. Enfin, ça, c'est sa langue natale et que c'était au niveau graphisme, c'était boustouflant.
Est-ce que ça justifie d'acheter une dernière console ou un PC à 2000 euros pour ça?
Voilà. Et avoir des graphismes top qualité pour certains personnages, puis avoir 30 PNJ un peu lambda que tu vois apparaître à différents coins de rue, je sais pas. Enfin. t'as énormément de choses qui sont mises en place dans ce jeu, mais en même temps, t'as énormément de choses que t'as l'impression que ça a été pris à droite à gauche dans d'autres jeux pour en faire un.
Ça donne sur la durée, parce que quand je vois qu'un jeu comme Skyrim qui est sorti il y a je sais plus combien de temps, il y a toujours des gens qui jouent dessus. Ça me tente toujours, quoi. Et je découvre des nouveautés.
Tu dis ça, Dom, j'ai envie de réinstaller Morrowind.
Sans parler de mode, j'ai hâte aussi de voir ce que sur PC principalement, il y aura des gens qui vont faire des mods, rajouter leurs propres, customiser leurs trucs, peut-être même créer des nouvelles villes, voir ce qu'ils vont faire du jeu. Parce que, ce qui est possible sur PC, alors sur les nouvelles consoles, peut-être, je sais pas, on verra bien ce que ça donne.
Mais de là à vouloir, pour moi par exemple, réinstaller Morrowind, c'est vrai que c'est hallucinant. Mais quand je vois des personnes qui font des vidéos dessus, un mec qui disait « Bon, je vais juste vous faire un petit overview du jeu », la vidéo dure 8 heures. Et tu dis « Effectivement, enfin, c'est donc, des jeux où tu pouvais passer... »
J'ai fait 20 minutes de Cyberpunk 2077 et j'ai l'impression d'avoir fait le tour.
Et j'aime bien faire des petits clins d'œil à Pierre-Yves qui est d'habitude avec nous dans l'émission. Pierre-Yves passait un an pour chaque Elder Scroll pour faire un personnage.
Bon, oui, ça c'est normal.
Et je crois que c'est le seul à avoir fait la quête principale en entre nous, peut-être, non? De mémoire. Non,
je l'ai fait plusieurs fois avec des différents.
Mais tu vois, gars, tu parles de Morrowind. Morrowind, c'est un des rares jeux où tu devais encore lire les bouquins pour trouver où aller dans ta quête pour certains moments. Parce que là, pareil, dans Cyberpunk, s'il te donne une quête, aller à tel endroit, parler avec tel bonhomme, bah t'as un chemin qui est tracé. Et qui va jusqu'au bonhomme avec un gros point d'exclamation dessus. Et même si tu dois le rechercher.
Il y a plein de choses à ramasser autour de toi, c'est les trucs brillent. Tu vois des objets qui brillent, tu t'approches et voilà, tu récupères. Enfin, ouais, c'est fini pour moi ça.
Je vais vous dire à quel point le gameplay évoluait. Je jouais à Red Dead Redemption 2 et on m'a indiqué que je pouvais appuyer sur la touche V et il allait marcher automatiquement jusqu'à l'objectif que j'avais fixé. Et du coup, je me suis dit, mais attendez. Il reste quoi du coup? Je vais juste taper des mobs et attendre, regarder mon perso.
Mon ordinateur jouait tout seul, voilà.
Voilà. Et dernièrement, ce qu'on a pu voir, un des jeux qui peut-être sort un peu de l'ordinaire, on en parle souvent, c'est Sea of Thieves, où tu vas carrément avoir des quêtes dans des livres avec des dessins, où tu vas devoir regarder les étoiles pour te balader. Et je trouve que c'est des jeux qui voilà, sortent un peu des clous où on prend le joueur par la main et comme il n'arrive pas à marcher, ben on va le porter carrément pour le déposer jusqu'à l'objectif. Il y a quand même des jeux qui arrivent à sortir un peu de ces clous. C'est assez appréciable. Et je ne pense pas qu'on est dans cette optique-là avec Cyberpunk, parce que Cyberpunk, le but, comme on l'a dit, c'est de vendre pour les consoles. Et quand vous regardez Cyberpunk... Vous tapez actualité, vous allez tomber sur BFM avec les infos de la bourse.
De faire parler et de faire jouer. Parce que tous les streamers, les influenceurs les plus connus du jeu vidéo du monde geek ont reçu le jeu en avance, un jour à l'avance, et ont tous fait leur flux, leur partie en ligne, etc. C'est impressionnant.
On n'a rien reçu du tout, heureusement, en France, hein, je tiens à vous le dire.
Tu vois, tu parlais justement de Cyberpunk et des qui te portent un peu jusqu'à ta quête tellement qu'il faut aider le joueur. C'est un des défauts que je trouve à Cyberpunk qui me donne pas trop envie d'y jouer, c'est qu'il mélange le côté RPG, que ce soit dans les dialogues, les stats, les arbres de compétences et compagnie, et le côté arcade, le côté très lumineux d'une ville comme Night City de Cyberpunk. T'as l'impression que c'est un jeu arcade, donc tu prends ton flingue quand tu dois tuer quelqu'un parce que tu te fais agresser, et en fait c'est le côté RPG, et donc quand tu tires dans la tête, tu vas peut-être marquer 120 points de dégâts, et le mec il a peut-être 1000 points de vie. Et là toi tu dis, mais ah là, ça va être très dur comme jeu d'arcade, dis donc. Bah non, parce qu'il y a des phases RPG, il y a des compétences, il y a le fait que t'as tiré dans la tête, t'as peut-être fait un critique, mais un critique en jeu de rôle, bah c'est pas un shout qui tue automatiquement. C'est tu vas lui mettre plus de dégâts et ça va absorber pas l'armure, etc. Et ça donne un jeu poussif, tu vois.
Petite nuance, je connais, il y a un des youtubeurs que je suis, c'est un anglais qui, c'est ce qu'ils appellent le Spiffing Brit, qui s'amuse toujours à démonter les jeux, à trouver les hacks, sans tricher, mais à les détourner. Et là, il a testé le jeu, il l'a reçu en avance, il l'a testé, et son objectif c'était de faire le plus de dégâts avec un simple pistolet de base. Et tu disais faire 120 de dégâts à la tête, lui, avec son pistolet de base, en choisissant, sans tricher, en choisissant les bonnes améliorations dans son arme de personnage, il est très très vite arrivé à faire du 6000, 12000 de dégâts avec un simple pistolet tout gris de base dans la tête.
Donc, ouais, mais tu vois, ça c'est une construction de perso, c'est du RPG. Alors que voilà, la personne qui joue à Cyberpunk de base, il va dire bah ok, c'est un côté arcade, on me dit d'aller chercher le bonhomme là-bas, mais jusqu'à suivre la flèche, le côté entre guillemets cartoon, parce que c'est pas vraiment ça, mais quand tu joues sur console, t'as pas vraiment les très bons graphismes, donc t'as que des trucs édulcorés qui te font penser à un jeu encore plus arcade. Derrière tu commences à tirer, tu vois que ton bonhomme il fait avec un flingue et pourtant t'as mis quelques compétences. C'est un jeu d'arcade ou c'est un RPG? Il y a des moments où le jeu c'est pas sur quel pied danser. Ouais. Mais par contre, je suis d'accord avec toi là-dessus, il y a énormément de bugs où t'as des boss qui sont très très durs à battre, mais une fois que t'as compris le système, tu peux les bloquer à des endroits et leur tirer dessus et être tranquille.
On a l'impression que c'est un jeu qui a fait 8 mois de développement, mais ça fait pas 8 ans qu'ils travaillent dessus, ils n'ont pas testé leur jeu.
Alors, ouais. Est-ce que la grosse erreur, justement, c'est d'avoir annoncé ce jeu il y a 8 ans, d'avoir mis tellement d'attentes que maintenant...
C'est obligé, pour la communication, on est obligé de faire ça.
On l'aurait annoncé l'année dernière à l'E3, normalement, sans avoir tous ces 7 ans d'attentes interminables, le jeu serait peut-être sorti, aurait eu du succès, et les petits bugs, machin, on se serait dit, vous inquiétez pas, Blizzard fait pareil.
Tous les jeux qui sortent maintenant sont buggés, de toute façon.
Bethesda aussi. Mm-hmm. Mais là, bizarrement, il se fait dézinguer, et je pense qu'on est dans une période où les gens, vu que Blizzard a fait rembourser son Warcraft 3, on a l'impression qu'il y a ce petit bouton qui n'existait pas avant, je veux faire me rembourser, allez vous faire foutre. Quoi. Voilà. Alors, je vous propose, avant de parler des cadeaux de Noël, puisqu'on va vous conseiller, en plus des albums, on est vraiment sympa dans Heureusement en France, en plus de la musique, on va vous proposer quelques idées de cadeaux de Noël qui sortent de l'ordinaire. On va quand même s'écouter un peu de musique avant. Reynald, tu as choisi un titre d'un groupe qui innove un peu comme Cyberpunk 2077 à chaque album.
Effectivement, quand tu as parlé des CD qu'on pouvait mettre sous le sapin, et je me suis dit, mais ça peut être moi qui offre ou qu'on m'offre. Et j'ai pensé au groupe AC/DC qui a sorti un album qui s'appelle Power Up 2020, en 2020. Et j'ai été assez déçu du dernier album en date qui s'appelle Rock or Bust, qui a été sorti en 2014. Pareil, c'est un album qu'on m'avait offert. J'avais déjà dit de toute façon à la radio que c'est la critique de l'album, c'est que t'écoutes le premier morceau jusqu'au dernier morceau, t'as l'impression que c'est qu'un seul et unique morceau. Voilà, c'est du AC/DC de maintenant. Et j'ai bien peur que l'album de 2020 fasse pareil. Et donc j'ai pas envie de me le procurer. Mais par contre, il apparaît sous le pied du sapin, à la rigueur. Voilà quoi, on va pas rechigner quoi.
Tu veux pas te fâcher avec les membres de ta famille tout de suite quoi. C'est un peu comme t'as des gens qui reçoivent en cadeau le pull qu'ils sont en train de porter le jour de Noël et qui font quand même style, ils sont contents parce que celui-là il commençait à être trop petit, tu vois.
Avec le sourire d'un air de dire regarde-le bien, t'as vu, je l'ai porté parce que je le porterai plus.
Tu parles d'AC/DC, est-ce que écouter la discographie complète d'AC/DC, c'est pas un peu écouter toujours la même chose?
C'est le souci. Et après,
à l'envers pour changer.
Est-ce que c'est pas aussi une qualité dans le sens où t'as tellement l'habitude des groupes qui changent pour se mettre à la page au niveau financier, d'être sûr d'avoir leur public, d'être sûr d'avoir leur entrée d'argent, de plaire à leurs fans, etc., qu'avoir un groupe qui ne change pas est peut-être rassurant. Ça te dépend du point de vue.
Mais je pense que quand t'es un groupe, tu as plus de chances de perdre des fans que d'en gagner.
Ouais. Après, là, dans l'album Power Up, qui est sorti là, il y a un mois ou deux, j'ai choisi un morceau pour rester dans la lignée de Cyberpunk, qui est quand tu commences en tant que nomade, tu es en dehors de la ville pour y rentrer, tu te balades en voiture, tu fais une sorte de mini road trip. Donc j'ai choisi le morceau qui s'appelle No Man's Land d'AC/DC pour aller avec ça.
c'était No Man's Land d'ACDC, du bon vieux ACDC, même si c'est tout nouveau, c'est marrant. Alors, on parlait tout à l'heure de sapins, on parlait de cadeaux, et il y a des petites idées cadeaux qu'on a dégotées comme ça de droite à gauche. Et Dominique, tu es parti en mission pour découvrir qu'est-ce qui pourrait plaire à nos auditeurs. Et l'un des premiers liens que tu nous as proposé, c'est un jeu de Kimol.
Oui, Kimol, en plus, à l'envers, j'ai pas fait attention, mais Kimol, à l'envers, c'est Molki. Ah, oui. Moi, je connais le Molki, qu'on peut prononcer Molku. C'est le jeu, fameux jeu de qui finlandaise, parce que j'allais dire suédois, mais non, c'est finlandais. Et le problème, c'est que c'est un jeu qui, en général, se joue à l'extérieur. Moi, j'avais une version miniature, une version de l'intérieur qu'on peut jouer, oui, bon, à l'intérieur, c'est pour la moquette. Mais ça se joue à l'extérieur, hein, sur de la terre, de la pelouse. Je crois que j'ai joué au Molki à peu près dans toutes les conditions, même la neige, et même par grand vent. Et c'était épique. Et là, pour jouer à l'intérieur, ben, quand on fait qu'on ne peut pas sortir, eh ben, on prend des quilles molles. Alors, mais ce n'est pas exactement des quilles molles. C'est une société qui a fait des espèces de petits manteaux pour mettre autour des quilles. Et comme ça, on peut les losser sans risquer d'abîmer. Enfin, si on le losse sur un vase, on va peut-être casser le vase. Mais on peut jouer à l'intérieur sans faire de bruit, déjà, peut-être pour ne pas énerver les voisins du dessous.
Pour moi, c'est la... Je suis désolé, Dom. Pour moi, ce jeu, c'est l'arnaque du siècle. C'est 43,90€. Alors, vous pouvez choisir votre couleur, hein, entre ciel
c'est
et mandarine.
C'est un jeu en bois, ouais.
Ouais, tu as le jeu en bois, mais écoutez-moi, vous avez déjà un jeu de Molki à la maison. Prenez une couverture, vous la coupez, vous l'enroulez autour de vos quilles, et vous avez votre jeu de quilles molles.
Bah, tu sais, déjà, le jeu de base Molki, il coûte, suivant certains magasins, entre 30 et 40 euros. Hein, donc,
c'est un vrai jeu, hein. Pas des pâtes copies qu'on trouve dans certains magasins.
Ouais. Alors, allez, 30 euros ton Molki, ça fait cher la couverture et la ficelle, quoi. Mais bon, il y a les trous prédécoupés, il y a la ficelle qui rentre bien dedans.
Artisanal, apparemment. Hein. Au moins, c'est fabriqué en France. Voilà. C'est éco-responsable, monsieur. C'est du hêtre des Pyrénées et de la feutre. Bon, la feutre de Chine. Mais non, elle vient pas de Chine. Hein,
Après, je vois pas trop comment il joue en intérieur, parce que c'est un jeu. Grandeur nature que tu vas jouer dehors, enfin, c'est la même échelle que le jeu de base. Si tu joues ne serait-ce que dans un couloir ou dans une pièce, tes quilles vont rouler peut-être en dessous d'un meuble. Comment tu vas le faire pour jeter, enfin...
Ça m'a l'air un peu plus petit qu'un jeu habituel, à savoir que vous allez devoir coller attends, vous allez devoir coller vous-même les numéros sur les quilles. C'est un peu un jeu à fabriquer soi-même, Dominique.
Exactement. Ça t'occupe pour les longues soirées d'hiver. C'est sur le site quillemolle.fr. Et c'est un truc à faire en famille, quoi. Pour la soirée de Noël, c'est parfait.
On va se quitter avec une chanson choisie par Dominique.
Un album qui nous a marqué cette année, on en a parlé.
Et celui-là, on le met pas dans le sac à sapin, on le garde en évidence pour le réécouter à tout moment.
Moi, je veux qu'on me l'offre en version vinyle, parce que j'ai vu les vinyles, ils sont magnifiques. On parle donc de l'album que Plastic Bertrand a sorti en 2020, l'album qui s'appelle L'expérience humaine. On est un petit peu dans le sujet de cyberpunk encore, hein. Surtout quand tu vois la couverture, c'est un peu cyberpunk, je trouve. Et j'ai choisi un morceau que, alors c'est vrai qu'on s'était un peu moqué parce que les morceaux sont pas super, super. Bon, bref, c'est un peu ridicule par moment. Mais ce morceau-là, je l'ai entendu à la radio et il est assez plaisant. C'est un morceau qui s'appelle Don't Stop, si, avec un feat de Lee John.
Voilà, c'était la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine en espérant qu'on peut retourner dans les studios de Radio Campus pour une nouvelle émission de Heureusement en France. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.
À plus. Ah.
Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations. À demain pour de nouvelles aventures.
Fin de la retransmission.
C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite.
Try to keep you down, but you rose up to claim your crown.
And in these troubled times,
you must stand firm, keep your feet on the ground.
Don't let nobody
get in your face.
Don't let nobody
take your place.
Don't let nobody
block your way.
Don't let
we'll be right back.
like a fool.
Don't let nobody
show them who.
Let them see that the strong will survive.